VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 27 juillet 2023, en direct de Washington, Idrissa Seloudia. Pour commencer les titres, au Niger, le président Mohamed Bazoum, renversé par des militaires putschistes. Au Burkina Faso, l'armée dément de fausses informations sur des mouvements d'humeur dans certaines casernes militaires. Au Mali, la junte fustige les sanctions américaines contre trois de ses responsables. Washington appelle les dirigeants africains à confronter Poutine sur la crise céréalière lors du sommet Russie-Afrique à partir de ce jeudi à Saint-Pétersbourg. Hunter Biden, fils du président américain Joe Biden, plaide non coupable de fraude fiscale après la suspension d'un accord. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. D'État au Niger, le régime du président Mohamed Bazoum a été renversé hier par un groupe de militaires lui reprochant dans un communiqué lu hier soir un manque de vision face à la dégradation continue de la situation sécuritaire du pays, mais également une mauvaise gouvernance économique et sociale. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdelrazak Idrissa.
Le communiqué a été lu un peu avant minuit ce mercredi par le colonel-major Amadou Abdraman, directeur des relations publiques à l'état-major général des armées du Niger.
Ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale, réaffirmant notre attachement au respect de tous les engagements souscrits par le Niger, nous rassurons la communauté nationale et internationale par rapport au respect de l'intégrité physique et morale des autorités déchues.
C'était donc la fin d'un suspense qui a duré toute la journée de ce mercredi. Tôt, en effet, des informations ont circulé sur d'abord un mouvement d'humeur au palais présidentiel, ensuite sur le fait que c'est le président Mohamed Bazoum et sa famille qui seraient pris en otage avant que les rumeurs d'un coup d'État n'apparaissent, avec comme meneur des éléments de la garde présidentielle dirigée par le chef du DICOR, le général Tchani Oumarou. Ce dernier ne figure tout de même pas dans le groupe de militaires apparu à la télévision nationale pour le communiquer. On y voit plutôt son adjoint, le chef d'état-major de l'armée de terre, le commandant des forces spéciales, entre autres. L'organe des nouvelles autorités du Niger se nomme Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Le nom de son président n'est pas connu, mais ils affirment gérer la situation.
Toutes les institutions issues de la 7e République sont suspendues. Les secrétaires généraux des ministères se chargeront de l'expédition des affaires courantes. Les forces de défense et de sécurité gèrent la situation. Il est demandé à tous les partenaires extérieurs de ne pas s'ingérer.
Cette dernière partie de la déclaration des nouvelles autorités fait sans doute allusion à la venue annoncée ce jeudi à Niamey du président béninois Patrice Talon pour une médiation de la CEDEAO. Le Niger se réveille donc aussi avec des militaires à sa tête dans un contexte sécuritaire sous-régional assez préoccupant. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger devient ainsi le troisième pays du Sahel miné par les attaques de groupes djihadistes liés à l'État islamique et à Al-Qaïda à connaître un coup d'État depuis 2020. Pour une réaction, Yacouba Ouédraogo, adjoint à Agadez, dans le nord du Niger, à environ 1000 km de Niamey, Ibrahim Manzo Diallo, journaliste à la radio Aïr Info.
Et je vous confirme que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie vient de faire une déclaration à la télé nationale. Ils disent avoir mis fin au régime que nous connaissons, c'est-à-dire le régime de Bazoum Mohamed. Depuis leur déclaration, un couvre-feu a été instauré et ils disent qu'ils ont désormais le contrôle de la situation et ils ont fait ce coup d'État à cause de la mauvaise gouvernance sécuritaire, économique et sociale en cours au Niger.
Quel est le sort du président Mohamed Bazoum? selon les putschistes.
Les putschistes ont dit eux-mêmes qu'ils ont pris l'engagement de respecter l'intégrité physique de toutes les autorités déchues, de respecter les engagements souscrits par le Niger sur le plan international et même national. Nous pensons que Bazoum est en bonne santé et qu'ils sont encore dubitatifs sur le sort des autres personnels. Que jusqu'à présent, cette junte n'a pas donner le nom du chef qui va présider aux destinées du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie.
Justement, leur communiqué lu à la télévision nationale cite toujours le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. On sait que c'est la garde présidentielle qui avait entamé ce mouvement qui aboutit à un coup d'État. Est-ce que c'est le même général Oumar Tchani, par exemple, qui est à la tête justement de cette garde présidentielle?
On n'a pas de nouvelles du général Tchani, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas seulement la garde présidentielle qui était à la télé, parce que nous avons vu le haut commandant en second de la garde nationale, nous avons vu le communicateur de l'armée de l'air, et c'est toutes les armées qui sont à la télé et qui ont fait le communiqué.
Donc vous pensez que toute l'armée nigérienne s'est ralliée à la cause de la garde présidentielle qui a commencé le mouvement?
Exactement, toute l'armée s'est ralliée parce que individuellement pris, ce qui était à la télé tout à l'heure, je vous dis que c'est les composantes des différentes forces de sécurité du Niger.
Ils parlent de mauvaise gouvernance et de dégradation de la sécurité qui leur aurait conduit à ce coup de force contre Mohamed Bazoum et son régime. Qu'est-ce que vous en savez davantage?
C'est un secret de polichinelle que la sécurité au Niger se dégrade de plus en plus. Les forces du Mali qui viennent des autres pays voisins qui sont en train de gagner du terrain au Niger. Mais ce qui est déplorable, c'est qu'il n'y a aucune mesure pour contenir les assauts de ces gens-là vers les villages de la région de Tillabéri, par exemple. Toute la région de Tillabéri, il faut le dire, est en train de quitter des villages parce que ces villages tombent un après un dans les mains des terroristes.
Malgré la présence renforcée de la France, je vais dire, Barkhane qui a quitté le Mali et qui a rallié le Niger.
Oui, mais une présence d'armées étrangères qui n'est pas du tout du goût des Nigériens dans leur ensemble. Les Nigériens ont toujours fustigé et critiqué la présence de ces forces de sécurité et qui ne servent pratiquement à rien parce que les attentats continuent.
Il y avait une médiation de l'ancien président Mahamadou Issoufou qui a échoué. Le président Patrice Talon est l'envoyé de la CEDEAO à Niamey. Les putschistes ont appelé la communauté internationale à ne pas s'ingérer dans cette affaire qu'ils qualifient d'interne. Quel serait le lendemain pour le Niger?
Ce que je peux vous confirmer, c'est que Patrice Talon n'a pas eu le temps d'atterrir à Niamey parce qu'il était attendu, c'est vrai, ce soir, mais aux dernières nouvelles, son vol a été remis au lendemain, c'est-à-dire à demain 9h30. Maintenant, avec la consommation du coup d'État, je ne pense pas que Patrice Talon puisse mettre les pieds au Niger. Ils vont d'abord attendre, voir comment ça va se développer pour venir peut-être chercher à sauver la vie des autorités déchues.
Ibrahim Manzo Diallo, journaliste à la radio Air Info à Agadez. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne fermement le changement anticonstitutionnel de gouvernement au Niger, a déclaré son porte-parole Stéphane Dujarric mercredi, après que des militaires putschistes ont annoncé avoir renversé le président élu Mohamed Bazoum. M. Guterres est profondément troublé par la détention du président Mohamed Bazoum par des membres de la garde présidentielle, a-t-il déclaré dans un communiqué. Le secrétaire général appelle à la cessation immédiate de toutes les actions qui sapent les principes démocratiques au Niger, a ajouté M. Dujarric. Il y avait déjà eu plusieurs réactions aux événements au Niger avant même la déclaration des militaires putschistes, et ce à l'issue d'une journée de tension à Niamey, marquée par ce que le régime avait appelé un mouvement d'humeur de la garde présidentielle qui retenait le président nigérien dans sa résidence officielle depuis mercredi matin. La Maison-Blanche avait exigé spécifiquement que les membres de la garde présidentielle libèrent le président Bazoum et s'abstiennent de toute violence, rappelant que le Niger est un partenaire crucial pour les États-Unis. Plus tard, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, avait conditionné la poursuite du versement de l'aide américaine au Niger au maintien de la démocratie. Pour sa part, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, avait réagi mercredi en déclarant que la France condamne toute tentative de prise de pouvoir par la force et s'associe aux appels de l'Union africaine et de la CEDEAO pour rétablir l'intégrité des institutions démocratiques nigériennes au Niger.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, l'armée a démenti hier de fausses informations qui ont fait état de mouvements d'humeur dans certaines casernes militaires. Pour le chef d'état-major général des armées, il s'agit d'allégations sans fondement dont l'intention manifeste est de manipuler l'opinion publique. De Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré.
Le communiqué est signé par le chef d'état-major général des armées. Il explique que de fausses informations faisant état de mouvements d'humeur dans certaines casernes militaires circulent depuis des heures sur les réseaux sociaux. Le chef d'état-major général des armées apporte un démenti catégorique à ces allégations dont l'intention manifeste est de manipuler l'opinion publique, indique l'armée. L'état-major appelle que dans ce contexte d'engagement opérationnel intense pour la reconquête du territoire national, l'ensemble des Burkinabés devrait soutenir les forces combattantes et rester vigilants face aux tentatives de démoralisation orchestrées par des individus aux intentions malveillantes. Enfin, le chef d'état-major général des armées a félicité l'ensemble des forces combattantes pour les multiples efforts déployés dans le cadre de la reconquête du territoire national. Des rumeurs qui se déroulent alors que le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, est en Russie pour le sommet Russie-Afrique. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
La junte au pouvoir au Mali a fustigé mercredi soir les sanctions économiques des États-Unis visant l'actuel ministre de la Défense, le colonel Sadio Camara, ainsi que le colonel Alou Bouadiara et le lieutenant-colonel Adama Bagayoko, tous deux responsables dans l'armée de l'air. Washington les accuse d'avoir facilité le déploiement et l'expansion des activités malveillantes du groupe paramilitaire russe Wagner dans le pays. Ces nouvelles mesures, contraires au droit international que nous condamnons vigoureusement, viennent malheureusement rallonger la longue liste des mesures agressives, des actes d'intimidation, de chantage et des campagnes hostiles contre le Mali, affirme le gouvernement malien dirigé par des colonels dans un communiqué transmis jeudi soir à l'AFP. Les États-Unis diabolisent nos partenariats et tentent de saper le moral de nos vaillantes forces de défense et de sécurité à travers l'adoption de ces mesures sans effet, selon le communiqué. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a exhorté jeudi les dirigeants africains participant à un sommet avec le président russe Vladimir Poutine à exiger des réponses sur la crise céréalière qui a plongé les pays les plus pauvres dans la crise. Michel Joseph.
S'exprimant à la veille d'une rencontre russe-Afrique à Saint-Pétersbourg, ville natale de M. Poutine, M. Blinken a insisté hier sur le fait que les dirigeants africains savaient que l'augmentation du coût des denrées alimentaires et les pénuries de céréales et d'engrais étaient la conséquence directe de la guerre menée par M. Poutine en Ukraine. Des délégations de 49 pays africains, dont 17 chefs d'État, sont attendues au sommet. Ils savent exactement qui est responsable de la situation actuelle, a déclaré M. Blinken à propos des dirigeants, dont certains ont offert un soutien tacite à Moscou ou ont refusé de dénoncer l'invasion russe de l'Ukraine. La crise céréalière s'est intensifiée depuis que la Russie a abandonné un accord qui permettait depuis l'été 2022 à l'Ukraine d'exporter, y compris vers l'Afrique, ses céréales par la mer Noire, malgré le blocus russe des ports ukrainiens. Qu'ont-ils fait depuis qu'ils se sont retirés? Ils ont bombardé à plusieurs reprises le port d'Odessa. Ils ont posé des mines dans la mer Noire. Ils ont expressément menacé la circulation de cargaisons maritimes. Je pense que c'est un message très clair, a souligné M. Blinken au sujet des Russes.
Des centaines de migrants africains, dont des femmes enceintes et des enfants, se trouvaient encore mercredi dans la zone tampon de Ras Jedir, entre la Libye et la Tunisie, après y avoir été amenés par les autorités tunisiennes selon des témoignages recueillis par l'AFP. Environ 140 migrants originaires d'Afrique subsaharienne, disant être sur place depuis 3 semaines, ont dressé un campement de fortune au bord d'un marais salant à 30 mètres du poste frontière libyen de Ras Jedir. Sans eau ni nourriture, des hommes, des femmes et des enfants tentent de supporter la chaleur le jour et le froid la nuit sans aucun moyen de s'abriter du soleil et du vent. Après des affrontements qui ont causé la mort d'un Tunisien le 3 juillet à Sfax, un total de 1200 migrants africains ont été expulsés par la police tunisienne vers des zones inhospitalières près de la Libye à l'est et l'Algérie à l'ouest, selon l'ONG Human Rights Watch. Par ailleurs, le Sénégal a rapatrié mercredi soir une cinquantaine de ses ressortissants interceptés ces dernières semaines au Maroc sur la route de l'émigration en Europe. Il en reste 428 migrants qui vont rentrer vendredi et dimanche par des bus, a dit la ministre chargée des Sénégalais de l'extérieur, Annette Seck Ndiaye, présente à l'accueil. Le gouvernement sénégalais doit présenter ce jeudi une stratégie de lutte contre l'émigration clandestine. Plusieurs drames ont été recensés ces 2 dernières semaines au Sénégal sur la route migratoire des Canaries, porte d'entrée vers l'Europe dans l'océan Atlantique. Cette route connaît ces dernières semaines un net regain d'activité au départ des côtes du nord-ouest de l'Afrique. Ici aux États-Unis, Hunter Biden, le fils du président Joe Biden, a décidé hier de plaider non coupable face aux accusations de fraude fiscale après la suspension d'un accord initialement négocié avec un procureur, selon des documents judiciaires, Jacques Aristide.
Cet accord initial entre le procureur de l'État du Delaware et Hunter Biden, conclu le mois dernier, qui prévoyait que le fils du président américain plaide coupable de fraude, a été suspendu par la juge Marie-Hélène Noriega, notamment parce qu'il portait également sur une autre affaire de violation de la législation sur les armes à feu. En l'absence d'accord, que les parties devront tenter de renégocier, Hunter Biden, 53 ans, a donc plaidé non coupable. Ses ennuis judiciaires, qui viennent perturber la campagne de réélection de son père, auraient pu trouver un terme avec cet accord, qui prévoyait une mesure de probation pour 2 chefs d'évasion fiscale. L'accord prévoyait également de mettre fin aux poursuites pour possession illicite d'armes à feu en échange de sa participation à un programme de réhabilitation. Interrogé à ce sujet, la porte-parole de la Maison-Blanche a rappelé qu'Hunter Biden était un citoyen comme un autre et qu'il s'agissait d'une affaire privée. Karine Jean-Pierre a ajouté que le dossier était géré indépendamment par le département de la justice sous la direction du procureur David Weiss, nommé sous l'administration de Donald Trump.
À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La Zambie est éliminée de la Coupe du Monde féminine.
Oui, après leur lourde défaite d'entrée devant le Japon 5-0, les Zambiennes se sont encore inclinées sur le même score devant les Espagnols. Avec 2 défaites en 2 sorties, la Zambie est out du mondial avant son dernier match pour l'honneur contre le Costa Rica lors de la 3e et dernière journée de la phase de groupe Par contre, après un premier succès tout aussi convaincant contre le Costa Rica 3-0, les Espagnols sont assurés de terminer dans les deux premières places du groupe C, qualificatif pour les huitièmes de finale, tout comme le Japon, qui a aussi battu le Costa Rica 2-0. Dans le groupe B, le Canada, après une première déception contre le Nigeria 0-0, a lutté pour battre l'Irlande 2-1 et se relancer dans la course au tour suivant. Les Irlandaises sont éliminées. Ce jeudi, dans le groupe B, les Super Falcons du Nigeria voudront décrocher leur première victoire dans ce mondial face aux Australiennes, toujours privées leur attaquante Sam Kerr, blessée.
Basketball, l'Afro-Basket Fille Senior commence demain vendredi.
La compétition va se disputer jusqu'au 6 août à Kigali au Rwanda. 12 pays dont le Mali y prennent part. Avant de s'envoler pour le Rwanda, le sélectionneur des Aigles Senior Filles du Mali, Oumarou Sidiya Maïga, a indiqué que l'objectif de son équipe est de remporter le trophée.
Nous estimons qu'on a gagné assez de trophées dans les petites catégories. Et si nous faisons la jonction entre toutes ces catégories, normalement on doit avoir une équipe très compétitive en Afrique. L'état d'esprit est bon, on a une équipe fin prête qui peut aller conquérir le titre. On croit qu'on a quand même les arguments, cependant, tout le monde se prépare. En tout cas, ce serait, je crois, une compétition très ouverte et très compétitive.
Oumarou Sidiya Maïga, sélectionneur des Aigles Seniors Filles du Mali, au micro de notre correspondant Bamako, Siaka Traoré.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoulia, quelques dossiers du jour pour terminer. Depuis 2015, le Burkina traverse la crise sécuritaire la plus grave de son histoire. Outre les pertes en vie humaine et les déplacements massifs de population causés par cette crise, les groupes armés terroristes tentent de fragiliser des secteurs clés en ciblant des infrastructures vitales. C'est notamment le cas de la route nationale numéro 16 qui relie le pays au Togo. Au fil des ans, cette route est devenue dangereuse, mais récemment, les forces de défense et de sécurité burkinabées ont été déployées dans la zone pour protéger et sécuriser cet axe vital essentiel à l'approvisionnement du Burkina Faso. Notre correspondant Gilda Asda a effectué le voyage sur la partie la plus à risque de cette voie. Son reportage.
Nous sommes sur la voie communément appelée route de Saint-Cancé, à environ 35 km de la frontière avec le Togo. Le balai des gros porteurs se poursuit sur cette route nationale numéro 16, celle qui relie le Burkina au port de Lomé. Un axe des plus stratégiques qui a connu des attaques terroristes il y a quelques mois. Des chauffeurs de bus comme Ahmed en ont souffert.
Avant, lorsqu'on empruntait cette route, il fallait arriver à destination pour être sûr d'être en vie. On n'avait pas le choix, il fallait travailler.
Pour d'autres comme ce chauffeur routier togolais, la frayeur a pris forme lors d'un voyage il y a 5 mois. Un contrôle terroriste à peine quelques kilomètres de la ville de Bitou.
Bon, j'étais vers Tempouré, après Bitou là. Là-bas aussi. Je suis venu les croiser. Mais ils nous ont fait garer, ils n'ont pas dit quelque chose, ils n'ont rien dit. Ils nous regardaient seulement après tout. Bon, ils sont rentrés dans les villages là, en train de promener. Après tout, ils ont viré la route, on n'a pas passé. Ils n'ont rien fait comme mal.
Par contre, ce chauffeur de camion remorque, lui, a vécu des faits bien plus tragiques. C'était à l'entrée de Noao, village situé à 6 km d'ici.
Je suis tombé sur eux. Je ne pouvais pas m'enfuir. Ce jour, ils avaient arrêté beaucoup de personnes sur la route. Ils ont emporté 4 camions remorques de type plateau, ainsi que des voitures d'occasion, au nombre de 4 aussi. Ils ont aussi tué 2 jeunes qui conduisaient leur tricycle. Ils les ont abattus devant nous, puis ils sont partis dans la brousse.
Ensuite, les terroristes vont incendier des camions sur la route, comme l'atteste cette vidéo d'un témoin. Avant, les hommes armés avaient pris le soin de proférer des menaces.
Ils ont dit qu'ils ne voulaient plus voir les ressortissants de certaines localités, comme Sinkansé, Sugurnoma, Yargatenga et Bitou. Ils disaient qu'ils allaient mettre ces zones sous blocus.
Cette route vitale est le principal axe de ravitaillement du Burkina, mais aussi du Mali et du Niger. Elle révèle un enjeu économique majeur pour ces pays. Des centaines de camions et cars de transport passent ici chaque jour. Et depuis les attaques, la zone a été fortement militarisée. Et les effets se font déjà ressentir, selon notre routier togolais.
La nuit ou dans la journée, on roule, on n'est pas tranquille. Maintenant, on dit merci, même si c'est la nuit, on roule, mais nous sommes en sécurité. Voilà.
D'autres usagers appellent à plus de vigilance.
Ce sont les militaires qui nous aident. Sans eux, cette route serait impraticable. Que les autorités renforcent la surveillance, sinon ce n'est pas simple. On ne peut pas non plus abandonner notre travail, sinon on va mourir de faim.
Son inquiétude est soutenue par des attaques récentes dans des localités non loin de la route. Preuve que cet axe d'importance capitale n'a pas encore retrouvé totalement sa quiétude d'antan. Notamment ce tronçon Tinkodogo-Bitou-Sinkansé. Gilles Dasda de retour de la route nationale numéro 16 dans le centre-est du Burkina pour VOA Afrique.
Mardi 25 juillet 2023, jour de célébration du 66e anniversaire de la République tunisienne, a coïncidé avec 2 ans de pouvoir du président Kais Saied. Pour un commentaire sur son bilan, Eric Manirakidza a joint à Tunis la journaliste Frida Damani.
Alors le bilan, c'est surtout un désenchantement total. Parce que ceux qui dansaient le 25 juillet il y a 2 ans, aujourd'hui sont dans le marasme. Parce qu'aujourd'hui, quand, tout simplement, on se retrouve avec à faire la queue pour acheter le pain, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Tunisie moderne, jusqu'à ce jour. Et là, c'est ce qu'on vit depuis le mois de mars dernier. Les pénuries se multiplient, il n'y a pas que la farine qui manque, il manque le sucre, l'huile, il y a le café, et ainsi de suite. C'est récurrent. Et donc, on est dans une situation où, économiquement, il y a des soucis, malgré une saison touristique qui s'annonce bonne. Mais le bilan politique est terrible, puisque, de toute façon, Saïd a écarté pratiquement tous les corps intermédiaires. Et surtout, ce qui s'est passé nous montre aussi la défaillance de l'élite et des revendications d'un peuple qui n'est pas écouté. Parce que Kais Saied, malgré qu'il se soit présenté, c'est vrai que c'est quelqu'un d'intègre, etc., mais c'est quelqu'un aussi qui avait dit qu'il n'avait pas de feuille de route, qu'il n'avait pas de programme, que son programme lui serait dicté par le peuple. Seulement, il n'écoute plus les revendications du peuple, qui sort dans la rue encore, et ni non plus les différents signes indicateurs qu'il a eus, ou les signaux, les alertes qui ont été donnés depuis 2 ans, entre autres la très faible participation aux élections, le désintérêt par rapport à la chose politique et publique, et voilà, tout ce qui fait que l'opinion aujourd'hui vit tout ça avec beaucoup de distance et attend que... Bon, je ne sais pas ce qu'ils attendent, mais que ça passe. Voilà, on en est là, puis puisqu'on n'a pas les moyens, tout simplement. Voilà.
Quelle pourrait être l'alternative?
L'alternative, ce serait que Kais Saied, ce serait même un miracle que Kais Saied entende ce qu'on lui réclame. Que Kais Saied arrête de vouloir calquer des choses qui sont pas... ou d'interpréter les choses de la manière qui n'est pas proche du réel. Il n'est pas dans le réel. Et c'est difficile de demander à quelqu'un de se raccrocher au réel quand il n'en a pas l'habitude. Il a sa vision des choses et qui n'est pas du tout une vision partagée. Et même sa vision, il ne la transmet pas totalement. Quand il n'arrête pas de nous parler de rapatrier ou de récupérer l'argent spolié à la nation, on est d'accord. Mais seulement c'est une mission impossible, pour la bonne très simple raison qu'on ne peut pas revenir sur la chose jugée, que les dossiers qui avaient été instruits à leur époque, il y a une dizaine d'années après la Révolution, ont été tous travaillés, que ça a été, les dossiers ont été clos. Il veut revenir sur des choses de ce type-là, ce qui est contraire quand même un fondement démocratique et un acquis qui est la base de la justice. Donc voilà, tout ça. En même temps, il faudrait une prise de conscience et aussi une prise de conscience de la part de son entourage.
Frida Damani, journaliste à Tunis. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sibudia, à la mise en onde de Michel Joseph, à la console, Jimmy Cook. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.